Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Un jour dans l'histoire, le prince de Ligne. Son nom symbolise à lui seul cette fameuse douceur de vivre de l'avant-révolution française. Charles-Joseph, prince de Ligne, est aussi l'incarnation de ce cosmopolitisme du siècle des Lumières, de son esprit, de son charme et de son ouverture d'esprit. Sa réputation a traversé les siècles, lui-même y a d'ailleurs veillé en prenant soin de rédiger de volumineux mémoires et de nombreux écrits à caractère biographique dans lesquels la correspondance a souvent la part du roi. À un homme aussi grand que son époque, à ce passeur de régimes et de frontières, il fallait des correspondants choisis parmi les plus grands. Ce sont entre autres Catherine de Russie, Joseph II d'Autriche, Frédéric II de Prusse ou bien encore Potemkin, Metternich, Voltaire et jusqu'à Casanova. Quand meurt le prince de Ligne en 1814, l'Europe n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était à sa naissance. Le principe de légitimité dynastique n'est plus et la Révolution française y a puissamment contribué. Charmeur impénitent, appartenant à l'une des plus vieilles familles d'Europe, Ligne a été un grand soldat, même s'il n'a sans doute pas obtenu dans le domaine des armes la renommée qu'il espérait. Il a aussi été un courtisan zélé, ce qui n'est pas toujours le trait de caractère le plus flatteur chez lui. Il a aussi et surtout été une manière de moraliste et de spectateur lucide, jugeant son époque et son monde avec un pessimisme joyeux qui n'est pas pour rien dans le monument que lui a dressé la postérité. Avec nous aujourd'hui, pour tâcher de comprendre la psychologie du prince de Ligne, l'historien anglais Philip Mansell, bien connu des lecteurs français pour être l'auteur de ce qui passe pour la meilleure biographie consacrée à Louis XVIII, mais également auteur d'une biographie du prince de Ligne parue chez Perrin. Philip Mansell, bonjour.
Bonjour.
Alors, n'est-ce pas un défi pour l'historien que vous êtes, qui travaille d'abord à partir d'archives écrites, de faits éprouvés, d'écrire la biographie et de brosser le portrait d'un homme qui est d'abord une légende et qui est l'incarnation de cette fameuse douceur de vivre de la deuxième moitié du XVIIIe siècle ?
Oui, en effet, il a laissé une image très flatteuse de lui-même, qu'il a lui-même créée. Mais l'homme derrière la façade est encore plus intéressant et attachant que l'image qu'il s'est laissée de lui-même. En effet, c'était un vrai original, révolutionnaire avant la Révolution, qui l'a prévu, qui a dit que le peuple était comme un cheval qui se laissait mater parce qu'il ne connaissait pas ses propres forces et qui a voulu un nouveau régime d'existence entre les humains.
Alors, le prince de Ligne, c'est aussi une espèce de gentilhomme cosmopolite. Il faut peut-être resituer déjà le contexte familial et expliquer la géographie de l'Europe de l'époque.
Oui, c'est une situation de famille extrêmement compliquée parce qu'il sort des Pays-Bas du Sud, de l'actuelle Belgique, qui était sous régime autrichien à l'époque. Mais il parlait français et ils avaient aussi des attaches avec l'Espagne. Il était grand d'Espagne, ce qui lui donnait à l'époque accès à la cour de Versailles. Et il faisait partie d'Europe plusieurs. Il y avait l'Europe des armes et des armées, où on pouvait changer de service, comme on change d'emploi en ce moment. Il faisait partie de l'Europe des cours, parce qu'il était prince du Saint-Empire romain, ce qui voulait dire qu'il avait statut de souverain. Il faisait parler de la monarchie autrichienne, dans l'armée de laquelle il servait. Et il allait souvent à Paris, qui était la capitale de l'Europe des lettres, dont il voulait faire partie. Il a fait publier beaucoup de ses ouvrages à Paris. Dans un choix d'ouvrage en 1808, rédigé par Madame de Chasles, qui a eu un immense succès à l'époque.
Alors, on reviendra sur cette postérité littéraire à laquelle il a contribué lui-même. On parlait de ses origines wallonnes. C'est en fait Belœil, la propriété familiale, ce fief immense, qui est une propriété magnifique dont les jardins sont d'une très grande beauté. Belœil, c'est le fief familial. Là, la langue parlée, c'est le français. Mais lorsqu'il s'agit de donner une carrière à ce jeune prince, c'est vers l'Autriche, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on le tourne.
Oui, parce que les Pays-Bas du Sud appartenaient à l'empereur autrichien. Et il servait dans l'armée autrichienne. Donc, il devait parler un peu d'allemand pour communiquer avec ses soldats. Et Vienne, alors, était une des plus grandes, des plus importantes capitales de l'Europe, l'égale presque de Paris. Et c'était ce qu'on appelait un « gross Österreicher ». Il voulait que la monarchie autrichienne aille de la mer du Nord à la mer Noire.
Alors, il va avoir très vite l'occasion de montrer ce qu'il a dans le ventre, entre guillemets, puisqu'on est au moment des débuts de la guerre de 7 ans. La Prusse essaie d'annexer la Silésie, elle y parvient d'ailleurs, ce qui est considéré comme quelque chose d'inacceptable par l'impératrice d'Autriche.
Oui, et Ligne sert bien dans l'armée autrichienne, dans un des régiments de Ligne qui faisait partie de l'armée, et il est entré à Berlin en 1660 en conquérant. Et il a eu une carrière militaire assez glorieuse dans la guerre de 1778 et aussi dans celle de 1788 contre les Turcs. Il a aidé à la prise de Belgrade par l'armée autrichienne. Il y a des descriptions de l'armée turque assez fascinantes. Mais après, il a perdu son meilleur soutien, qui était l'empereur Joseph II, mort en 90. Et les empereurs qui lui ont succédé se méfiaient de lui parce qu'il s'était trompé un peu dans la révolution belge ou brabançonne, comme on disait, de 90.
Oui, alors le prince de Ligne, c'est d'abord le protégé de Marie-Thérèse, c'est ensuite le protégé du fils de l'impératrice, Joseph II. C'est une espèce d'honnête courtier, entre guillemets, qui va d'une cour à l'autre. Alors effectivement, il faut distinguer l'Europe en guerre et l'Europe alliée. Il est aussi bien à l'aise à la cour de Vienne qu'à la cour de France.
Oui, parce qu'il a des intérêts un peu partout. À la cour de France, il faut bien le dire, il suit des procès. Donc il faut aller à la cour, voir les ministres.
Voilà, il a des dossiers familiaux à plaider, oui, qui l'obligent à être en France et à être un courtisan, dans l'espoir peut-être qu'une intervention royale fasse que la balance penche du bon côté.
Et vite, il devient ami du comte d'Artois et de la reine Marie-Antoinette. Et c'est un peu par ambition, bien sûr, il dit qu'il n'a jamais rien demandé, mais c'est faux, qu'il passe souvent des semaines entières à Versailles ou à Paris. Et puis, il adorait la littérature française, il avait des éditeurs à Paris, et il est venu même voir Jean-Jacques Rousseau.
Et Voltaire.
Et Voltaire, à Ferney. Et il vient à l'Académie française pour la réception de Choiseul-Gouffier en 82, je crois. Et à Vienne, c'est son ambition, c'est l'armée. Ensuite, c'est la capitale de l'Europe pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, où passe presque tout le monde, des Grecs, des Turcs, des Russes, des Anglais. Et il voyage souvent à Pétersbourg, où aussi il a des intérêts de famille, parce que son fils aîné a épousé une héritière polonaise. Et il vite devient favori de l'impératrice Catherine II. Et puis il sert de lien d'officier d'état-major entre l'armée russe et l'armée autrichienne pendant la guerre contre les Turcs.
Alors, il y a une frustration, je le disais tout à l'heure en préambule. Cet homme, le prince de Ligne, qui est quand même le favori de souverains qui sont des souverains exceptionnels. Enfin, on n'a pas chaque siècle une Marie-Thérèse, un Frédéric II. Il ne parviendra jamais, finalement, il ne sera pas le prince Eugène. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais le commandement en chef. Et on sent que c'est une frustration énorme pour lui.
Oui, absolument. Le ministre de défense autrichien disent qu'il aurait perdu l'armée tout de suite s'il le commandait en chef. Mais sa réponse à ça, c'était que parce que l'armée autrichienne a subi tant de défaites au moment des guerres de la Révolution, il n'aurait pas pu faire pire, lui. Et peut-être qu'il aurait mieux fait.
Oui, parce que le théâtre d'opération dont vous parliez et qu'on connaît peu en France, puisque c'est peu de temps avant la Révolution française, au moment où il y a cette alliance tactique entre l'Autriche et la Russie contre l'Empire ottoman, il s'agit de gagner des territoires dans les Balkans. Vous disiez qu'il participe au siège de Belgrade. Il fait bonne figure, là.
Oui, et il est vraiment protégé et admiré par l'empereur Joseph II. Et puis, c'est un moment où les destins de l'Europe se jouent dans des régions qu'on conteste encore de nos jours, comme la Moldavie, la Bessarabie, l'Ukraine, la Serbie. C'est toujours les mêmes problèmes. Qui les aura? Comment les gouverner? À qui sont-elles?
Et est-ce que, finalement, on ne se méfie pas un peu de lui dans ses cours où on le tient avec beaucoup de sympathie? C'est un convive agréable, c'est un gentilhomme, c'est un prince lettré. Finalement, est-ce que, quand il vient en France, par exemple, il est très proche de Mercy d'Argenteau, l'ambassadeur d'Autriche en France, est-ce qu'il est mandaté discrètement depuis Vienne pour faire que la reine de France se souvienne qu'elle est autrichienne?
Je crois que non, parce qu'il y avait déjà tant d'agents officieux de Vienne à Versailles, on n'en avait pas besoin d'autres. Mais ce qu'il est, il est connu, c'est une combinaison, peut-être le premier prince à être écrivain de métier. Il est agent de public relations. Et c'est pour ça qu'un peu plus tard, et la cour de Louis XVIII en exil, et la cour de Napoléon en 1805, l'invitent chez elle. Talleyrand lui écrit des lettres en disant « Venez à Paris ». Le marquis de Bonnet lui invite à Varsovie, où est la cour du prétendant, parce qu'il fera une publicité excellente pour leur cause.
Alors, il reste fidèle à l'Autriche, même à un moment où, comme vous le disiez, les puissances opposées à l'Empire de France sont vulnérables et perdent bataille sur bataille. L'empereur Napoléon Ier, visiblement, souhaiterait le rencontrer, et on pouvait imaginer que de cette rencontre, il y avait des prébendes, des récompenses, des choses. Et lui tient bon, finalement.
Lui tient bon, mais il y a toujours des ombres au tableau. Il aurait voulu commander l'armée autrichienne aux côtés de l'armée française qui envahit la Russie en 1812. Il aurait voulu aller en tant qu'observateur au fait du mariage de Marie-Louise et de Napoléon il y a 200 ans. Au lieu de lui, il y a son petit-fils, le comte de Clary, qui y est allé, qui a tenu un journal extrêmement amusant sur ce qui s'est vraiment passé à ces fêtes de mariage.
Alors, il reste malgré tout celui qui est au courant de tout, à tel point que lorsque se prépare le congrès de Vienne, puisque c'est lui, vous le rappelez d'ailleurs, qui a ce mot « le congrès n'avance pas, il danse », qui résume tellement cette atmosphère de ville en fête qu'était Vienne pendant le congrès de Vienne. Il est de tous les repas, il est de tous les dîners, de tous les bals. Il reçoit chez lui, alors qu'il mène finalement un train de vie assez restreint. La Révolution française ayant annexé ce qui est l'actuelle Belgique, il a perdu une partie de ses finances. Il vit très chichement à Vienne, mais il est absolument au courant de tout. Et on passe par chez lui pour rencontrer certains des émissaires, des diplomates qui sont là.
Oui, même Talleyrand y est allé. Le duc de Weimar y vivait presque parce qu'il tenait maison ouverte. Il invitait des gens de toutes les nationalités à des repas plutôt minables. Donc, on voulait y aller. Et puis, lui-même allait à toutes les fêtes du congrès. Ils disent « Oh, c'est un repas délicieux, mais c'est un assassinat. » Il sait qu'il ne doit ni manger ni boire. Et il en meurt. Il prend froid en attendant dans l'antichambre de l'impératrice de Russie.
Est-ce que vous pensez, à la fin de sa vie, il vit très longtemps, puisque né en 1735, il meurt en 1815. C'est un parcours étonnant dans une époque où l'Europe qu'il quitte à sa mort n'a plus rien à voir avec celle qu'il a connue. Est-ce que lui... Alors, il y a deux choses. Comment est-ce qu'il juge cette évolution de l'histoire? Est-ce qu'il pense effectivement que le congrès de Vienne va faire revenir à la situation d'avant 89? Et comment est-ce que lui-même juge sa propre vie
à la fin? Il est très lucide. Il sait que, d'une certaine façon, il est un raté, qu'il n'a jamais vraiment eu une célébrité ni littéraire ni militaire. Mais il laisse derrière lui des ouvrages non encore publiés jusqu'au XXe siècle comme « Fragments de l'histoire de ma vie », qui est vraiment remarquable. Et il laisse aussi des ouvrages encore pas publiés de notre temps, qui sont extraordinaires, qui attaquent la religion, l'ordre social, les gouvernements. Et donc, sans doute, il prévoit qu'il aura une renommée future. Et je crois que sur la Révolution française et les changements sociaux de l'époque, il était plutôt optimiste. Il croyait que peut-être la Révolution française avait renforcé l'hiérarchie sociale et la religion. Parce qu'en 1815, la plupart de l'opinion était tellement horrifiée par les soi-disant excès de la Révolution française qu'ils étaient retournés vers la monarchie et la religion. Et la monarchie autrichienne, d'une certaine façon, est sortie renforcée de toutes ces guerres-là. Est plus solide et censé être nécessaire par les puissances de l'Europe comme digue contre l'expansion française.
Alors, Philippe Mansel, vous avez utilisé un mot très dur. Vous vous avez dit qu'il était ou qu'il avait eu le sentiment d'être un raté. Est-ce que, en même temps, c'est un homme qui a l'air d'être l'incarnation de ce gentilhomme grand siècle, d'un siècle de facilité, d'un siècle qui est un siècle de plaisir aussi, juste avant la grande tragédie de la Révolution française. Lui-même est un homme extrêmement intéressant, extrêmement audacieux sur certains préjugés de l'époque. Il est tout à fait philosémite. Il a connu les Turcs puisqu'il a combattu contre les Turcs, mais dès que la paix est signée, il s'intéresse aux coutumes, aux mœurs des Ottomans. Enfin, il est vraiment un homme animé d'une grande ouverture à l'autre.
Oui, il dit que l'Asie est supérieure à l'Europe, par exemple. Et il cachait son originalité d'esprit derrière une façade de frivolité. Mais il y a une lettre remarquable censée être écrite de la Crimée où il dit qu'il n'a jamais vraiment réussi dans ses carrières. Mais c'était un personnage tellement ouvert à tout qu'il ne pouvait pas se concentrer sur une chose. Donc c'était presque inévitable. Et à la fin, quand même, il est devenu maréchal, il est devenu écrivain à succès à Paris. le maréchal prince de Ligne, toute l'Europe le connaissait.
Philippe Mansel, nous marquons une pause, si vous le voulez bien, et nous retrouvons ensuite le prince de Ligne. Nous retrouvons Philippe Mansel, historien anglais, auteur d'une biographie de Louis XVIII et d'une biographie plus récente parue chez Perrin, consacrée au prince de Ligne, le charmeur de l'Europe. Alors Philippe Mansel, vous nous décrivez un prince de sang qui est un gentilhomme jusqu'au bout des ongles, qui est un grand militaire, même s'il a une certaine frustration du côté des combats qu'on ne lui a pas permis de mener. Quel est l'héritage de ce prince de Ligne qui est célèbre en France, surtout pour ses bons mots, pour sa correspondance, pour avoir été également en échange épistolaire avec Madame de Staël, avec Voltaire? Quelle est la perception qu'on a du prince de Ligne dans les pays germaniques, par exemple?
Il est presque oublié dans les pays germaniques parce que peu de ses ouvrages sont édités en allemand. Mais au fond, vers la fin de sa vie, il commençait à se voir en allemand. Il a adoré le personnage du roi Frédéric le Grand, qu'il a visité en 1780 et qu'il a comparé dans un ouvrage extraordinaire, un mémoire sur le roi après sa mort, il a comparé à Jésus-Christ. Il l'a appelé le plus grand homme qui ait jamais existé. Et en Allemagne, il est presque oublié, mais en Belgique, il reste encore un personnage très vivant. Il y a une revue qui est vouée à sa mémoire, Les Nouvelles Annales Prince de Ligne, et on publie de plus en plus de ses ouvrages en français. Et on commence, j'espère bien, à le découvrir en anglais.
Alors, la Belgique est un État qui vit des choses difficiles actuellement sur le plan politique. Est-ce que la figure du prince de Ligne est de nature, par exemple, à offrir une image plus soudée, une image de cohésion? Ou est-ce que c'est une image qui correspond à l'histoire de la Wallonie et que ne peuvent pas s'approprier les Flamands?
À l'époque, au XVIIIe siècle, on utilisait les mots wallon et flamand. L'un voulait dire la même chose que l'autre. Il s'appelait flamand aussi, quoiqu'il ne parlait pas la langue. On n'est rien si on n'est pas de la Flandre, disait-il. Il était très fier du passé des Pays-Bas du Sud, qui avait une véritable identité, qui est prouvée par la Révolution brabançonne, qui a précédé la française et qui a en effet créé la première république moderne en Europe. Les États Belgique unie de 1790, qui n'a duré que pendant un an. Et en effet, il pourrait être un personnage unifiant pour la Belgique actuelle, parce qu'il était très fier des coutumes du pays, de la ville d'Anvers, autant que du Hainaut, de Bruxelles comme ville, de la cour de Bruxelles, de son vivant. Et son dernier poème était sur la Belgique.
On parlait de Belœil, donc le fief familial. Le château existe toujours. Il a malheureusement brûlé au début du XXe siècle. Il a été reconstruit. Les jardins sont connus pour être magnifiques. Les collections, semble-t-il, ont été préservées. Et c'est un endroit où on peut aujourd'hui encore saisir un peu la personnalité. C'est une espèce de reliquaire consacrée au prince de Ligne. Vous avez forcément dû effectuer plusieurs pèlerinages à Belœil.
Bien sûr, et avec un très grand plaisir. Oui, il y a une pièce où il reste des choses personnelles de lui, des dessin par son secrétaire Sauveur le Gros, son anneau, sa boucle d'oreille. Il y a aussi des écrits de lui. Il y a une bibliothèque magnifique avec quelques livres qui lui ont appartenu. Il y a des archives que je n'ai pas encore, malheureusement, je n'ai pas encore vues. Mais tout le château est un endroit européen. Nous devons créer une histoire européenne pour notre avenir européen. Et un des endroits est le château de Belœil, parce qu'on voit à quel point ses ancêtres ont servi dans tous les pays de l'Europe, en Espagne, au Portugal, dans le Saint-Empire romain, en France. Et lui-même était très européen par les lettres, par sa carrière, aussi par ses multiples identités. Il n'était pas seulement grand d'Espagne, prince du Saint-Empire romain, écrivain français, maréchal autrichien. Il voulait aussi avoir l'indigénat, un peu la nationalité hongroise et polonaise. Et pendant la guerre contre les Turcs, il portait l'uniforme russe. Donc, il prouve qu'une identité n'exclut pas d'autres. une nationalité ne veut pas dire qu'on est coupé d'autres nationalités. Et aussi, il était très fier d'être lié au prince d'Orange, donc il se sentait un peu hollandais aussi.
Alors, Philippe Mansel, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes également le biographe d'un souverain peu connu des Français, Louis XVIII, personnage ambigu, personnage compliqué, que vous avez d'ailleurs très bien, je ne dirais pas démystifié, mais présenté de manière très intime dans une biographie parue il y a quelques années chez Perrin. Quels sont les liens entre le futur Louis XVIII, à l'époque comte de Provence, et le prince de Ligne? Est-ce qu'on a des échanges de correspondance? Est-ce que justement, du côté de Provence, on a compris qu'on pouvait peut-être utiliser le prince de Ligne?
Oui, alors ils se sont connus à Versailles avant la Révolution. Et le prince de Ligne est un des premiers contre-révolutionnaires. Même avant les États généraux, il prévoit pour lui des catastrophes dans des lettres de l'époque.
Parce qu'il est plus proche d'Artois au début. D'ailleurs, on pense que Artois, ayant plus de caractère que Provence, étant plus militaire de tempérament, il va incarner la contre-révolution. Et puis finalement,
oui,
au fil des ans, ce n'est pas ça.
Il a connu Artois au moment de manœuvres françaises près des Pays-Bas autrichiens. C'est Artois qui l'a un peu présenté à Versailles. Et surtout, Ligne est très ami de la famille Polignac. Il y a des lettres assez fascinantes sur elle par lui. Donc, il connaît peu Provence, mais il est très sympathique et admiratif des émigrés français. Il les reçoit au château de Belœil, il reçoit dans le parc de Belœil le grand écrivain contre-révolutionnaire Rivarol, il reçoit chez lui les écrivains contre-révolutionnaires à Vienne comme Sénac de Maillan et Cléry qui a écrit Journal de ce qui s'est passé à la Tour du Temple.
Il est proche du marquis de Bonnet.
Il est proche du marquis de Bonnet et il est invité par Bonnet à voir le prétendant en exil à Varsovie. Donc, il n'a jamais cédé, il n'a jamais été attiré vers la Révolution française. Mais après 1805, encore une défaite autrichienne par les armées françaises, il conseille la paix et il devient assez admiratif de Napoléon. Je crois que c'est le côté vainqueur militaire, contre-révolutionnaire de Napoléon qui lui plaît. D'ailleurs, un grand ami à lui, d'avant la Révolution, le comte de Narbonne devient le dernier ambassadeur de Napoléon à Vienne. Et Narbonne et Ligne se lient ensemble.
Alors, les historiens ne réécrivent pas l'histoire, mais on sent que vous auriez aimé justement travailler sur des archives et pourquoi pas une correspondance ou des échanges. Qu'aurait pu donner une rencontre entre l'empereur et le prince de Ligne? Ce sont deux époques totalement différentes, deux milieux sociaux complètement différents, avec une admiration tout de même réciproque. Est-ce que ça aurait donné quelque chose de raté, un petit peu comme celle entre Chateaubriand et Napoléon Ier?
Je me demande, parce que l'alliance franco-autrichienne de 1810 a marché quand même pendant 2 ou 3 ans, et il y a la même obsession pour la victoire militaire. Et d'ailleurs, il y a un côté ancien régime de Napoléon qui paraît évident aux cérémonies du mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise. Ils font partie de la même Europe monarchique.
Et alors, vous montrez ça avec beaucoup d'équité et un peu de sévérité. On sent les Habsbourg faire une espèce de trafic d'archiduchesse puisqu'on sacrifie littéralement la pauvre Marie-Louise. Et lui-même n'est pas là pour assister à ce mariage, c'est son beau-fils, le comte de Clary. Mais on sent là quelque chose d'étonnant.
Mais pas si étonnant que ça, parce qu'on avait l'habitude de sacrifier des archiduchesses à d'autres souverains étrangers. Elles ne souffraient pas tellement dans le palais des Tuileries ou de Saint-Cloud. D'ailleurs, il y a des témoins qui disent que c'était un ménage très heureux au début du mois. Elles vivaient dans un luxe qu'on ne connaissait pas à Vienne, où l'empereur, son père, avait dû vendre son argenterie. Et Ligne lui-même défend le mariage en disant qu'on a vu un peu la même chose avec les nièces de Mazarin. Enfin, pourquoi pas, qui se sont mariées, elles, à des souverains de l'époque.
Alors, on parlait tout à l'heure de la postérité du prince de Ligne et de son côté emblématique pour l'Europe et l'idée que peut-être il pourrait être fédérateur de plus encore de l'Europe qui se construit, qui évolue. Est-ce que, du côté de la Turquie, on a aussi cultivé un souvenir du prince de Ligne où là, c'est beaucoup plus diffus?
Non, il est très peu connu en Turquie. Mais il était aimé par quelques écrivains de l'ancienne Yougoslavie, parce qu'il a défendu la langue qu'on appelait à son époque esclavone. Et il s'intéressait à l'histoire de ces régions-là. Et on se souvient de lui un peu parce qu'il a écrit, sans doute inventé, les mémoires de Bonneval Pacha, de ce noble français qui a fini Pacha à 2 ou 3 queues dans l'armée turque.
Dont le portrait d'ailleurs est conservé toujours par les descendants au château de Thomier dans le Cher.
Oui.
Philippe Menzel, je vous remercie d'avoir contribué à nous faire mieux connaître la vie du prince de Ligne, personnage hors du commun, personnage emblématique du XVIIIe siècle. Et j'invite nos auditeurs à aller plus loin en achetant votre livre paru chez Perrin, Le prince de Ligne, le charmeur de l'Europe. Merci beaucoup.
C'est moi. Merci beaucoup.